Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. L'invasion de l'Ukraine est en moins mauvaise posture pour la Russie que l'an dernier à la même époque. Les sanctions se multiplient et de son côté, la Russie multiplie les cyberattaques et les opérations de déstabilisation à l'encontre de l'Occident. Moscou souffle sur toutes les braises, sur toutes les crises qui secouent l'Occident. Elle le fait de plus en plus frontalement en espérant profiter des divisions et de certains atermoiements, notamment à Washington, avec le blocage de l'aide à l'Ukraine par les républicains fidèles à Donald Trump. Vladimir Poutine se rêve en grand leader de l'axe de la résistance à l'hégémonie américaine dont il ne cesse d'agiter l'épouvantail. Le président russe aime à répéter que les frontières de la Russie ne s'arrêtent nulle part. L'attaque de l'Ukraine du 22 février 2022 a bouleversé les équilibres à toutes les frontières russes et au-delà, entre apparition de nouveaux foyers de tension et réorientation des alliances et partenariats. Regard avec nos invités, Anne de Tinguy, professeur des universités émérite à l'INALCO et chercheur au CERI, Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, auteur de Le Géant Empêtré, la Russie et le monde de la fin de la guerre froide à l'invasion de l'Ukraine, paru aux éditions Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Céline Maranger, chercheuse sur la Russie, l'Ukraine et le Bélarus à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Céline Maranger qui vient de lancer avec Juliette Cadio une série intitulée « Violences impériales, l'actualité russe du passé soviétique dans le grand continent ». Bonjour.
Bonjour.
Raphaël Auclair, enseignante-chercheuse à l'Institut catholique d'études supérieures, docteur en études russes, spécialiste de la guerre froide. Raphaël Auclair qui a signé un article dans le dernier numéro de la revue Diplomatie en Ukraine, la Russie veut poser les bases d'un nouvel ordre mondial. Bonjour.
Bonjour.
Et Serge Astom, reporter indépendant, auteur d'un long reportage texte et photo à travers la Russie en guerre, publié dans l'Obs à l'automne dernier, fruit d'un voyage en autostop de la Crimée à Vladivostok, réalisé durant l'été 2023. Serge Astom qui lance en avril un nouveau magazine trimestriel appelé Invendable, qui rassemblera tous les à côté du travail de pigiste. Bonjour.
Bonjour.
On va démarrer sur un aspect qu'on a pas eu le temps d'aborder dans l'émission d'hier, ce sont les questions économiques. En dépit des performances de 2023, les sanctions contre l'économie russe suscitent-elles d'après vous des inquiétudes au Kremlin à moyen terme? La Russie qui a officiellement enregistré une croissance de 3,6% en 2023, il est le pays le plus sanctionné au monde, bénéficie de l'influx d'argent de l'État vers le complexe militaro-industriel. Comment expliquer, qui souhaite répondre, les raisons pour lesquelles l'économie russe ne s'est pas effondrée? Céline Maranger.
Alors c'est vrai que les sanctions occidentales sont tout à fait massives. Il y a eu 13 paquets successifs de sanctions et ces sanctions n'ont pas eu l'effet escompté, c'est-à-dire qu'elles entravent la régénération de l'outil de défense, mais elles ne l'empêchent pas. Mmh. Et elles contraignent l'économie russe, mais elles ne l'ont pas mise à plat. Alors, comment expliquer ce rebond de l'économie russe? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que les autorités russes se sont préparées. Elles ont eu le temps de se préparer à la guerre en réduisant les dépendances. Parce que ces sanctions, en fait, elles ont commencé en 2014. Donc, ils avaient déjà mis en place un certain nombre de mécanismes de contournement. Et surtout, ils avaient réussi, en fait, à diminuer leur dépendance vis-à-vis du système financier international. Ensuite, l'État russe a toujours cherché à constituer des réserves importantes. Des réserves financières, elles ont aussi, le Kremlin a bénéficié des excédents budgétaires très importants qui ont été occasionnés en 2022 par la hausse des prix du pétrole. L'excédent budgétaire sur la vente des hydrocarbures était de 160 milliards de dollars. Quand on sait que la guerre coûte environ 150 milliards de dollars par an, ça explique que la première année, ils aient eu suffisamment de cash pour pouvoir continuer à investir et poursuivre l'effort de guerre. Ensuite, la Banque centrale russe est dirigée par une équipe de femmes, d'ailleurs, tout à fait performante et compétente. Et cette équipe de technocrates, en fait, hein, a quand même bien réussi à contenir les effets de l'inflation et les problèmes macroéconomiques qui ont pu se poser du fait des sanctions et du fait de la guerre. Et dernier point, vous l'avez déjà souligné, c'est qu'en fait, la guerre nécessite des investissements dans l'industrie de défense et que ces investissements ont favorisé le développement économique de régions qui étaient jusqu'alors très déprimées, en tout cas depuis la baisse des investissements d'État dans ce secteur dans les années 90, et que par ailleurs, les soldes des soldats et les rétributions qui sont données pour les morts au combat permettent un afflux massif d'argent dans des régions très pauvres et entraînent par exemple, un boom du secteur de la construction et donc des effets économiques positifs.
À cela s'ajoute peut-être, Anne de Tinguy, le fait que les sanctions sont assez largement détournées et que la Russie parvient à importer des produits qui ont été exportés par l'Union européenne dans des pays limitrophes.
Alors, les sanctions sont en effet largement contournées. C'est vrai dans le cas de la Russie, comme d'autres pays qui sont sanctionnés. En fait, ce n'est pas véritablement une surprise. Sauf que là, la Russie peut s'appuyer pour contourner les sanctions sur des grands pays comme la Chine et d'autre part sur certains pays de l'espace post-soviétique. Alors, en effet, l'économie russe a mieux résisté qu'on ne pouvait le penser à la guerre et aux sanctions. Et d'autre part, moi, ce que je vois en plus, c'est que finalement, le but premier, c'est qu'elles n'ont pas conduit Poutine à arrêter la guerre. Et ça, c'est le plus problématique. Une fois qu'on a dit ça, je suis absolument convaincue. Alors, je ne suis pas économiste, mais enfin, de nombreux économistes l'ont montré. Les sanctions ont des effets. Elles ont des effets et puis d'autre part, il faut faire attention aux chiffres parce que, par exemple, en ce qui concerne le taux de croissance, en lui-même, il n'a pas une très grande signification dans la mesure où la croissance est très largement liée à l'essor de l'industrie de défense qui booste la croissance dans une certaine mesure, mais ça ne veut pas dire que le pays va bien. Et d'autre part, les sanctions ont des effets dans certains secteurs plus que dans d'autres. Elles ont des effets très importants dans le secteur des transports, l'automobile, l'aviation, problème des pièces d'attaché, problème des semi-conducteurs, etc. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la mise en place de l'économie de guerre se fait au détriment de secteurs comme ceux de la santé ou de l'éducation et que la guerre a eu des conséquences, on a mentionné l'inflation, mais des conséquences aussi sur le marché du travail, elle a provoqué une chute du rouble, etc. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui aujourd'hui est apparemment moins mauvaise que ce qu'on pourrait penser, mais qui, sur le moyen et le long terme, est très dommageable à la Russie. Parce que tous les économistes font des prévisions en soulignant que les perspectives sont mauvaises. Mauvaises parce que la guerre et les sanctions entravent les nécessaires investissements dans la modernisation du pays, que d'autre part, elle limite l'accès de la Russie aux technologies de pointe et d'autre part, elle obstrue son insertion internationale. Alors, il y a la rupture avec l'Ukraine, la rupture avec les partenaires traditionnels de la Russie, les États-Unis, mais surtout dans le domaine économique, l'Europe, le pivot vers l'Asie. Nous allons parler de la Chine. Le processus de vassalisation de la Russie à l'égard de la Chine, tout ça, ça ne va pas du tout dans le sens des intérêts de la Russie d'aujourd'hui et surtout de demain. Et en outre, la Russie a des problèmes graves qui sont démographiques, qui sont environnementaux et qui ne font qu'aggraver la situation. Donc, en fait, la question de la guerre et des sanctions, c'est une situation qui est très ambivalente et il faut distinguer le court terme du moyen terme et du long terme.
Alors, Serge Alstom, vous qui avez parcouru la Russie l'été 2023, tout ce qui s'est dit là sur le plan économique, vous l'avez ressenti et perçu?
Oui, alors je ne suis pas non plus économiste du tout, j'espère que ça ne discréditera pas ce que je vais dire, mais en tout cas, d'un point de vue d'observateur, je rejoins ce que vous avez dit sur les infrastructures qui sont largement soutenues par les finances publiques et par le fait aussi que la guerre apporte aussi de l'argent à des familles qui, enfin, par exemple du Daghestan ou du Caucase, qui s'engagent justement pour des raisons financières. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un pouvoir d'achat qui est assez fort. Sur les infrastructures, c'est vrai que j'ai vu partout dans le pays des constructions de tous les côtés, dans toutes les villes. Alors beaucoup des églises, des mosquées, etc., qui aussi suivent une autre logique du gouvernement aussi de s'attacher, enfin de chercher du soutien dans la population, et ça fonctionne très bien. Mais aussi des routes, beaucoup de routiers avec qui je prenais les camions me disaient tu vois, cette route-là, elle est nouvelle, c'est depuis que Poutine est là, il a relancé l'économie, etc. Donc il y avait une sorte de fierté aussi pour cet essor économique et un décalage avec ce que moi j'escomptais avant de partir. J'entendais beaucoup parler de ces sanctions, etc., et des conséquences qu'il y aurait sur la Russie, qui était le but étant de mettre à plat l'économie russe. Et effectivement, là-bas, tout le monde me montrait les magasins, me montrait le prix de l'essence, etc., me disait, tu vois, comme ici, on est bien, on a tout, il n'y a aucun problème, vos sanctions, elles ne marchent pas, etc. Moi, ce que j'ai plutôt constaté, c'était le fait que ces sanctions, en tout cas cette atmosphère, cette fermeture des frontières économiques avec la Russie, les problèmes bancaires, etc., aussi qu'on rencontre entre la France notamment et la Russie, étaient plutôt d'une tendance à isoler la Russie dans une autre partie du monde, c'est-à-dire de la détacher davantage de l'Occident et de l'attacher justement à des nouveaux partenaires comme la Chine et d'autres. Pour une question, par exemple, de voyage, les Russes me disaient tout le temps, nous, on s'en fiche, on ne peut plus aller en France, mais on va en Thaïlande, on va au Vietnam, c'est magnifique, etc. On est mieux que chez vous, etc. On a de l'argent pour le faire, on n'a juste plus envie d'aller chez vous, parce que de toute façon, vous ne nous autorisez pas à y aller. Donc les sanctions, j'avais l'impression qu'elles avaient aussi, d'une certaine façon, elles confortent les Russes dans leur impression, dans leur sentiment d'être haïs par l'Occident et attaqués par l'Occident. Après, d'un point de vue économique, je suis pas assez maître pour m'exprimer sur le long terme, mais je sais qu'on a aussi un biais parfois de confirmation de ce qu'on voudrait par rapport à notre point de vue occidental, par rapport à cette guerre notamment. Et ce qu'on nous annonçait comme une chute de la Russie économique, moi je ne l'ai pas constaté. Je ne sais pas si elle adviendra ou si ce n'est pas aussi un espoir qu'on a dans le cadre de cette guerre. Mais encore une fois, je ne suis pas du tout économiste.
Juste une toute petite phrase. En fait, il est clair que personne, enfin je crois que personne n'a pensé que l'économie russe allait s'effondrer.
Si, Bruno Le Maire l'a pensé. Il voulait mettre l'économie russe à genoux, mais ça c'est pas tout à fait vérifié.
Je crois que ça c'était déraisonnable. On ne peut pas faire qu'une économie d'un pays aussi grand que la Russie s'effondre véritablement. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'effet.
Alors, la Russie s'est distancée de ses alliés, vous le disiez, Anne de Tinguy. Les États-Unis, est-ce qu'on peut parler vraiment d'alliés, en tout cas voilà, de pays avec lesquels elle avait des relations assez développées, l'Europe, etc. On l'a pensé à un moment isolée, la Russie. Finalement, elle s'est faite aussi de nouveaux ennemis, de nouvelles alliances. Je pense à la Chine. Vous l'avez mentionné, on n'a pas encore parlé de la Corée du Nord, on n'a pas parlé non plus de l'Iran. Raphaël Auclert, quel bénéfice finalement sur le plan international ou disons à l'extérieur de ses frontières la Russie a-t-elle tiré depuis le début de la guerre d'Ukraine ?
Énormément. La Russie qui avait une aspiration à se rapprocher de l'Occident lorsqu'elle s'est redressée à la fin des années 90, on l'a vu donc avec le discours de Munich en 2007, où elle a à ce moment-là coupé avec ce qu'elle appelle l'unilatéralisme occidental, c'est-à-dire qu'elle a choisi de tracer sa propre voie sans essayer de mendier l'amitié d'un Occident qui voulait lui imposer ses conditions. En tout cas, c'est la façon dont elle a vécu les choses, encore une fois. Et il faut dire que la mise en place des sanctions a donné un énorme coup de turbo à la politique étrangère de la Russie qui désormais a une diplomatie extrêmement active sur tous les continents. Alors une des plus grandes illustrations de cette diplomatie, c'est le BRICS, dont la Russie est en 2024 présidente. Pour rappel, les BRICS regroupent, comme son nom l'indique, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.
Et ils se sont élargis.
Et qui se sont élargis
en janvier
de cette année à 6 autres membres. Donc l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Sachant que ça se bouscule au portillon, beaucoup aussi voudraient adhérer. Donc ça sonne quand même un petit peu la fin du poids qu'avait l'Occident dans les relations internationales. Il faut quand même rappeler que les BRICS désormais pèsent 46% de la population mondiale, un tiers du PIB mondial et 40% des produits pétroliers. Donc ça commence quand même à faire un poids assez conséquent. Alors l'Occident dispose encore de nombreux leviers, et évidemment, c'est normal, elle a bien l'intention de s'en servir, mais plus ça va et plus le président Poutine et les membres des BRICS insistent et veulent peser de plus en plus. Et notamment, un des grands instruments, c'est la création d'une banque mondiale qui n'utilisera pas le dollar, qui permettra effectivement de s'émanciper de la domination du dollar.
Tout cela à l'initiative peut-être davantage de la Chine que celle de la Russie. Avant de revenir aux BRICS, à la relation avec la Russie, j'aimerais qu'on évoque les ex-républiques soviétiques. On a l'impression, depuis la guerre d'Ukraine, d'une certaine accélération du processus d'émancipation de ces ex-républiques soviétiques, processus d'émancipation qui avait été entamé à la chute de l'URSS. Est-ce qu'on peut, de ce point de vue, évoquer une sorte de continuation de la chute de l'URSS, Anne de Tinguy ?
Ah ben, tout à fait, c'est exactement ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la guerre, en fait, agit comme un formidable accélérateur de l'éclatement en cours de l'espace post-soviétique, de l'ex-Union soviétique, de l'ancien Empire russe. Rappelons que la rupture entre la Russie et l'Ukraine est maintenant patente. Je dirais, on ne peut jamais dire que les choses sont définitives, mais enfin, cette rupture maintenant, à la fois au niveau des États et au niveau des sociétés, est très profonde. Et rappelons que l'Ukraine a été autrefois le plus beau fleuron de l'Empire russe. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait majeur. Et parallèlement, l'invasion russe a donné une nouvelle impulsion décisive à l'intégration de l'Ukraine dans la communauté euro-atlantique. L'Ukraine a maintenant le statut de pays candidat avec l'Union européenne. Le cadre des négociations d'adhésion va être prochainement défini. L'Ukraine est candidate, nous le savons, à l'Alliance atlantique. Alors, l'Ukraine n'a pas obtenu toutes les promesses qu'elle aurait souhaitées au moment du dernier sommet de l'OTAN. Il n'en reste pas moins que les pays membres ont réaffirmé que l'avenir de l'Ukraine était dans l'OTAN. Et puis, d'autre part, ces dernières semaines, un certain nombre d'accords de coopération en matière de sécurité pour 10 ans ont été signés par l'Ukraine et plusieurs pays européens, dont la France, qui intègrent encore davantage l'Ukraine dans la communauté euro-atlantique. Et les effets pour la Russie de la perte de l'Ukraine sont amplifiés, d'une part par le fait que la Moldavie et dans une certaine mesure la Géorgie ont elles aussi confronté leur ancrage à l'Ouest. Ces deux pays ont aussi le statut de candidat à l'Union européenne. Donc on a un espace post-soviétique, on a une zone d'influence russe dans cet espace qui, je le rappelle, est le pivot, est considéré par les Russes comme le pivot de leur puissance. On a un espace qui est réduit. D'autre part, alors il y a beaucoup d'événements dont on pourrait parler qui montrent que les fractures existantes ont reçu une nouvelle impulsion du fait de cette guerre. Je fais référence notamment à ce qui s'est passé dans le Caucase du Sud, au Karabakh, dont l'Azerbaïdjan a repris le contrôle total et qui a maintenant disparu. Enfin bon, il y a beaucoup à en dire, mais ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'à cela s'ajoute le fait qu'il y a une rupture qui est historique entre la Russie et l'Europe. Je fais partie de ceux qui considèrent que la Russie est un pays qui est d'abord européen. Les Russes sont d'abord, à mes yeux, des Européens. Et cette rupture due à la guerre, alors la dégradation des relations n'a pas commencé en 2022, ni même en 2014 au moment de l'annexion de la Crimée, de l'intervention de la Russie dans le Donbass, le début de son intervention. Il n'en reste pas moins que c'est très important et que cette rupture en fait signifie que le continent européen est désormais à nouveau divisé, mais sur des lignes qui sont très différentes de celles qui existaient du temps de la guerre froide, et ça au détriment de la Russie.
On poursuivra, on vous retrouve Anne de Tinguy avec Raphaël Auclair, Serge Astom et Céline Maranger après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur la Russie, nous retrouvons nos invités. Anne de Tinguy, professeure des universités émérite à l'INALCO et chercheure au CERI, le Centre de recherche internationale de Sciences Po. Céline Maranger, chercheuse sur la Russie, l'Ukraine et le Bélarus à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Raphaël Auclair, enseignante chercheuse à l'Institut catholique d'études supérieures. Et Serge Astom, reporter indépendant. On a parlé dans la première partie de l'émission des conséquences de la guerre d'Ukraine sur l'environnement immédiat de la Russie. On va un petit peu élargir. Anne de Tinguy, vous évoquiez le processus de vassalisation de la Russie vis-à-vis de la Chine. Qu'est-ce que l'on peut dire de ce partenariat Chine-Russie dont on peut rappeler que c'est une des questions géopolitiques majeures de notre temps? Qui souhaite répondre, Céline Maranger?
Je pense qu'on assiste à un renforcement des relations depuis un certain nombre d'années, hein, depuis je dirais presque 25 ans. Il y a un rapprochement politique qui est lié à plusieurs facteurs, au fait que d'abord les deux pays ont les deux dirigeants se connaissent bien de longue date et s'apprécient. Et qu'ils ont une commune hostilité aux États-Unis. C'est vraiment le ciment, en fait, je pense, de la relation. Ils ont, juste avant l'invasion, décidé dans un document commun que désormais leur amitié serait sans limite, c'était le terme utilisé. Dans ce même document, ils exposaient une vision alternative de la démocratie qui m'a laissé en tout cas moi interdite. Mais pour autant, je crois qu'il ne faut pas exagérer la portée de ce rapprochement. D'abord, ça n'est pas une alliance militaire, il faut le rappeler, en tout cas pour le moment. Chacun à des visions différentes de l'ordre international. Et ça, c'est un point central. Je ne pense pas que la Chine soit pour un bouleversement complet de l'ordre international. C'est plutôt une puissance du statu quo, de mon point de vue, en tout cas pour l'instant. Et chacun a des intérêts bien compris. Et comme le disait Anne de Tinguy, la Chine, en fait, bénéficie de l'affaiblissement géopolitique et de l'isolement géopolitique de la Russie vis-à-vis des pays occidentaux. Et la relation sino-russe est de plus en plus déséquilibrée au détriment de la Russie. Voilà. Et donc, je pense qu'en fait, encore une fois, à court terme, on peut avoir l'impression que la Russie tire son épingle du jeu. À moyen et long terme, on peut avoir davantage de doutes.
Raphaël Auclair.
Non, je ne partagerai pas tout à fait cette analyse. Je pense qu'on ne peut pas surestimer l'importance de ce partenariat. Pourquoi ? Parce que nous avons d'un côté la Chine, qui est, bon, jusqu'à preuve du contraire, l'atelier du monde, et de l'autre côté, la Russie, qui est le pays qui a le plus de ressources au monde. Donc moi, par exemple, quand je les ai vus en mars 2023, donc Xi et Poutine à Moscou, ça m'a fait un petit peu froid dans le dos parce qu'on a quand même l'impression d'un potentiel économique absolument colossal. Et ils le savent très bien. Et ils organisent vraiment leur puissance de manière géopolitique. Comme vous le savez, il y a la route de la soie qui est un nouvel axe d'échange qui est évidemment fondamental pour la Chine et qui court depuis la Chine jusqu'à nous, jusqu'à Venise, jusqu'à l'Italie. Donc c'est un projet, un axe absolument colossal qui va absolument bouleverser les échanges et la mondialisation telle qu'on la connaît maintenant. Et d'ailleurs, un partenariat qui est absolument concret, qui se matérialise, puisque en 2023, les échanges entre la Chine et la Russie ont bondi de 26%, donc pour atteindre 200 milliards. Alors, il faut bien dire que les échanges entre les États-Unis et la Chine pour la même année étaient plus du triple, mais eux-mêmes sont en retrait. Ils ont baissé de 11%. Donc, on voit vraiment un énorme dynamisme, d'ailleurs, qui coïncide avec les 75 ans de la relation sino-russe, puisqu'en 1949, il y avait donc la première fois ce partenariat extrêmement fort. Et d'ailleurs, il y avait à l'époque le slogan « Russie, Kitaï, Druzia, Navik ». Donc,
c'était ils ont presque fait la guerre de foi. Ils ont été pendant 30 ans ennemis jurés, quand même.
Oui, évidemment. Mais je parle de cette situation un petit peu idyllique de ce partenariat qu'il y avait en 1949 et qu'on retrouve maintenant, en tout cas dans les intentions, puisque Xi a qualifié Poutine de bon ami. En parlant du rapprochement avec Moscou, il a parlé d'un choix stratégique. Donc on voit que vraiment les deux investissent à fond dans ce partenariat, dans cette relation. Alors après, évidemment, il ne faut pas être naïf. Chacun joue sa partie. Chacun, comme on dit, en géopolitique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc chacun avance ses intérêts. On sait aussi que ce partenariat est assez inégal puisque la Russie exporte avant tout des matières premières et la Chine des produits manufacturés, qu'il y a aussi évidemment l'affaire de la Sibérie qui est de plus en plus colonisée par les Russes. Qui est colonisé par les Chinois. Oui, il y a de plus en plus de colonisation chinoise.
La Sibérie appartient à la Russie.
C'est un lapsus, oui. Mais malgré tout, on voit quand même cet axe extrêmement fort et qui peut vraiment être un pivot qui peut déséquilibrer l'ordre international actuel. C'est une évidence.
Alors, alliance de circonstances ou pas, en tout cas, ils ont aussi Vladimir Poutine et le président chinois en commun cette hostilité envers l'Occident et une volonté de pérenniser leur régime respectif. Serge Astom.
Oui, par rapport à cette relation avec la Chine, effectivement, il y a une peur. J'ai longé le fleuve amour qui sépare la Russie et la Chine. Il y a à la fois une peur et une fascination pour la Chine. La peur, c'est que la Chine peuple progressivement l'Extrême-Orient qui s'est dépeuplé depuis la fin de l'Union soviétique et donc remplace entre guillemets les Russes dans cette région-là. Mais il y a aussi la fascination pour la Chine, pour ce qui se passe de l'autre côté du fleuve, où tout le monde, mais absolument tous les conducteurs de l'Extrême-Orient, parlent des lumières chinoises de l'autre côté du fleuve, avec ces grandes tours qui ont surgi en quelques dizaines d'années, avec ce progrès qui considère comme fantastique du côté chinois. Mmh. Et c'est un exemple. Et par rapport à cette... je trouve que ça rejoint un peu la thématique aussi de la présidentielle, c'est que la démocratie n'est pas une référence pour les Russes, et la Chine n'est pas cet épouvantail qu'elle est pour nous, c'est-à-dire que Xi Jinping est vraiment considéré comme un grand président par beaucoup de Russes, en tout cas que j'ai rencontré là-bas, du côté Extrême-Orient, et le considère comme un exemple de réussite. Et au contraire, la démocratie occidentale est souvent moquée. Tout au long du voyage, il y a un lien permanent entre démocratie et LGBT. On me renvoyait la question gay en permanence à propos de la démocratie. Alors, ce lien qui est assez absurde, mais en tout cas qui est fait en permanence. Et ensuite, il y a une sorte de mépris pour cette démocratie qui est imparfaite. Et les images passent à la télé, mais je pense aussi que ce n'est pas seulement de la propagande, c'est aussi les gens comme ils perçoivent la France de l'étranger. Et ce n'est pas qu'en Russie que ça se passe. Mais quand on parle de la démocratie française, on nous renvoie en permanence aux manifestations des retraites qui ont été réprimées et qui n'ont pas abouti. On nous dit « vous avez voté pour Macron », mais on dirait que personne ne l'aime. Et il y a cette critique aussi qui est faite. Il y a les gilets jaunes qui ont aussi beaucoup marqué avec les éborgnements, etc. Quand j'étais, c'était les violences en banlieue après la mort de Naël. Et c'est aussi des images qui choquent. Et quand on parle de démocratie en Russie, ce n'est pas du tout le mot qu'on utilise ici. C'est-à-dire que pour eux, c'est autre chose. Et la Chine, en revanche, apparaît comme un exemple.
Alors là aussi, on revient peut-être à ce qu'on a dit dans la première partie de l'émission d'hier sur la question du rôle de la télévision et de propagande aussi. Il y a une façon de décrire et de montrer à voir ce qui se passe ailleurs à l'avantage du régime en place dont on sait par ailleurs que ça n'est pas une démocratie. J'aimerais qu'on avance un tout petit peu sur la Russie dans son environnement mondial pour parler du rapprochement avec la Corée du Nord. Est-ce que c'est un rapprochement qui est préoccupant? Quel rôle pour la Chine dans ce rapprochement? Et qu'on parle aussi de l'Afrique. Que traduit la facilité avec laquelle Moscou prend pied en Afrique subsaharienne, Ntanguy?
Alors, si on essaye de faire un panorama un petit peu plus large et qu'on regarde comment se présente la situation internationale pour les Russes, constatons tout d'abord que la Russie a très peu d'alliés. En fait, dans l'espace post-soviétique, il n'y a que le Biélorusse qui soit un véritable soutien pour la Russie. Que d'autre part, dans le monde, alors la Russie bénéficie, nous venons de le dire, du soutien de la Chine, qui est un soutien limité mais extrêmement important. Elle bénéficie aussi, alors je ne dirais pas que ce sont des alliés, je pense que ce sont des partenariats qui sont plus transactionnels qu'autre chose. Il n'en reste pas moins très important, vous l'avez souligné, la Corée du Nord et l'Iran. Pourquoi très important? Pour des raisons militaires, parce que là, pour le coup, c'est un partenariat qui a des dimensions militaires dans la mesure où ces deux pays ont accepté de livrer à la Russie des obus, des munitions, des armes en quantité qui sont apparemment très importantes. Et ce qui permet aussi de montrer, quand on réfléchit à l'issue de ce conflit, nous allons en reparler et y réfléchir, c'est qu'on voit finalement que la Russie, qu'on considérait comme une très grande puissance militaire, on a souvent parlé de la deuxième armée du monde, et avec une industrie de défense très forte, en réalité, on voit qu'elle a été obligée de faire appel à la Corée du Nord, à l'Iran, pour appuyer son industrie de défense qui était insuffisante. Donc il y a là quelque chose de très important. Et enfin, je voudrais, avant de terminer, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais parler de tous ces pays, de ce qu'on appelle le Sud global. Mmh. Alors, j'aime pas beaucoup ce terme de Sud global, parce que le Sud n'est justement pas global. Et il y a des pays qui ont des convictions et des politiques extrêmement différentes. Il n'en reste pas moins qu'il y a une partie de ces pays dits du Sud qui représente, nous le savons grâce au vote aux Nations Unies, entre 32 et 35 pays, qui ne veulent pas prendre parti, qui ne veulent pas s'aligner, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir si on a le temps. Mais en fait, ils ne donnent raison ni à la Russie, ni à l'Ukraine. Ils veulent rester entre les deux. Et cette entre-deux a bien sûr un impact qui est positif pour la Russie, parce que du coup, ça limite l'isolement international de la Russie.
Et alors, j'en reviens à ma question sur l'Afrique, l'Afrique alors, subsaharienne.
Laisse Céline connaît beaucoup mieux la question.
Je pense
qu'en
Afrique, en fait, le Kremlin cherche à instrumentaliser le souvenir de l'engagement et du soutien que l'Union soviétique a apporté à ces pays au moment des indépendances. Ils cherchent aussi à instrumentaliser, oui, vraiment le souvenir de l'engagement anticolonial des bolcheviks russes, et force est de constater que ça fonctionne assez bien. Simplement, je pense qu'il faut rappeler que l'Union soviétique avait une politique assez généreuse vis-à-vis de ces pays. Il y avait un agenda politique, bien sûr, derrière. C'était une façon d'étendre son influence et de manifester sa puissance dans la guerre froide. Mais le fait est qu'au moment des indépendances et après, il y a eu beaucoup de dons, beaucoup d'investissements soviétiques, du troc aussi, qui ont permis à ces pays de se développer. Aujourd'hui, que propose la Russie aux pays africains ? Et par quel truchement elle intervient en Afrique ? Elle se sert de sociétés militaires privées, hier Wagner, aujourd'hui Africa Corps, pour s'implanter dans des pays, pour évincer des armées occidentales vues comme concurrentes. Et quelle est la finalité recherchée ? Le but quand même de ces sociétés militaires privées, qui ne sont en rien indépendantes du pouvoir russe, il faut bien le préciser, c'est quand même de servir de garde prétorienne à des juntes militaires ou à des potentats locaux, et de mettre en place des schémas de prédation, ou en tout cas de les renforcer, et d'obtenir des concessions dans les mines d'or ou de diamants. Et quand on regarde les investissements russes ou l'aide au développement de la Russie aux pays africains, c'est tout à fait dérisoire. Donc, il y a le discours, et là encore, ils se servent du discours, ils instrumentalisent en fait la mémoire du souvenir de l'aide apportée par l'Union soviétique, je le répète. Mais quand on regarde ce qui est fait concrètement, on peut penser que, à part déstabiliser ces pays et se servir sur la bête, ils ne font pas grand-chose d'autre.
Et la Russie qui peut s'appuyer par ailleurs sur une certaine crédulité des élites africaines. Raphaël Auclair.
Alors moi, je n'ai pas du tout la même vision. D'une part, alors effectivement, vous dites instrumentaliser, la Russie instrumentalise la situation, oui, mais encore faut-il le pouvoir. Et pourquoi le peut-elle ? Eh bien, parce que c'est le fruit de nos renoncements. Et quand on parle de diplomatie russe, que ce soit pour la Corée ou bien pour l'Afrique, eh bien, il faut bien quand même se rendre compte que finalement, en tout cas, c'est la façon dont je perçois les choses. Cette diplomatie, finalement, signe notre échec. Parce que,
mais renoncement, pas tellement. C'est surtout qu'on a été mis à la porte, Raphaël Auclair.
Oui, tout à fait. On a été mis à la porte, la nature hors du vide. Mais en fait, si vous voulez, d'une certaine manière, on pourrait dire que, cette diplomatie active, que ce soit la Corée ou l'Afrique, c'est un petit peu, d'une certaine manière, une voie de pour pallier justement au détournement de l'Occident. Et d'ailleurs, j'en parlais récemment avec un certain membre d'un think tank américain qui est extrêmement introduit, qui a participé à la réflexion américaine, et lui-même, qui pourtant défend les intérêts américains et qui est un spécialiste de la Russie extrêmement averti, a regretté énormément. Et il disait déjà à la fin des années 90, il prédisait le rapprochement entre la Russie et la Chine. Il disait la pire chose que nous pourrions faire, il le disait dans les années 90, ce serait d'aboutir, à force de dissuader la Russie de contact avec nous, ce serait d'aboutir à ce rapprochement avec la Chine, qui justement irait absolument contre tous nos intérêts. Et bien maintenant, nous y sommes. C'est-à-dire que nous avons une Russie qui s'est détournée de nous, qui pourtant... de l'Occident, c'est-à-dire et qui depuis 2007, depuis le tournant en 2007, et maintenant donc qui cherche plein de partenariats à l'étranger. Alors si je peux revenir très rapidement sur la Corée du Nord, donc normalement c'était pétrole contre nourriture, et là c'est plutôt dans le cas de la Corée du Nord, c'était plutôt obus contre jets de combat, puisque ce qui s'est passé c'est que dans le cadre de la guerre en Ukraine, la Russie, comme vous le savez, s'est trouvée à court de munitions, comme les Ukrainiens d'ailleurs, et donc ils ont eu l'idée de faire appel à la Corée du Nord, qui, elle, en disposait d'énormes stocks. Et d'ailleurs, on dit que la Corée du Nord a fourni environ 10 millions d'obus de calibre 122 et 155 à la Russie, ce qui correspond à peu près à ce qui a été tiré par la Russie en 2022, et ce qui permet justement maintenant à la Russie de continuer à pilonner l'Ukraine, ce qui évidemment est extrêmement regrettable, mais de fait lui donne un avantage militaire.
D'autre part, sans la Corée du Nord, on est d'accord, la Russie ne pourrait pas le faire.
Je ne pense pas, et d'ailleurs ça a été confirmé par la visite le 16 janvier de la ministre des Affaires étrangères de Corée du Nord, Koe Sun-yui, à Sergueï Lavrov, qui a justement absolument renforcé cette collaboration.
Alors, s'il marchait très rapidement, et ensuite ma question est-ce qu'on doit s'attendre à une continuation de la guerre ?
Je voulais simplement dire que concernant l'Iran et la Corée du Nord, la question en fait fondamentale pour la sécurité mondiale, je crois, est de savoir ce que la Russie a promis à ces deux États du seuil, qui cherche à se doter de l'arme nucléaire et des moyens balistiques pour pouvoir envoyer ses armes en échange des livraisons de drones Shahed et de missiles balistiques nord-coréens. Et ça, c'est vraiment, c'est la question centrale, je pense, aujourd'hui.
Anne de Tinguy, est-ce que on doit s'attendre à une continuation, voire une extension de la guerre en 1 minute 30 ?
Je crains de constater que, pour le moment, il n'y a pas d'issue en vue. C'est-à-dire que la Russie ne montre aucun signe de souhaiter mettre fin à cette guerre. Et d'autre part, l'Ukraine continue à manifester une résistance et une détermination farouche, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas continuer à être envahie par la Russie. Ceci étant dit, pour le moment, le front est figé. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent être frais. Du fait de la pénurie d'obus, de munitions et d'armes dont souffre actuellement l'Ukraine, du fait des perspectives qui sont très incertaines du côté des États-Unis, si le Congrès ne vote pas la poursuite du programme d'aide à l'Ukraine, si le président Trump est réélu président des États-Unis et qu'il s'en tient à la politique ukrainienne qu'il a promis, eh bien l'Ukraine sera dans une situation extrêmement difficile. D'où la conviction qui a été exprimée très clairement à plusieurs reprises ces dernières semaines par le président Macron d'un sursaut occidental de soutenir l'Ukraine beaucoup plus que ce que nous le faisons.
Merci Anne de Tinguy. Je rappelle que vous êtes professeur des universités émérite à l'INALCO et chercheur au CIRI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, et auteur de Le Géant empêtré, la Russie et le monde, de la fin de la guerre froide à l'invasion de l'Ukraine, aux éditions Perrin. Céline Maronger cherche sur la Russie, l'Ukraine et le Bélarus à l'Institut de Recherche Stratégique de l'école militaire. C'est Céline Maronger qui vient de lancer avec Juliette Cadio une série intitulée « Violences impériales, l'actualité russe du passé soviétique dans le grand continent ». Raphaël Auclair, enseignante-chercheuse à l'Institut catholique d'études supérieures, docteur en études russes, spécialiste de la guerre froide, et qui a signé un article dans le dernier numéro de la revue Diplomatie consacré à l'Ukraine. En Ukraine, la Russie veut poser les bases d'un nouvel ordre mondial. Merci aussi à Serge Astom, reporter indépendant, auteur d'un long reportage texte et photo à travers la Russie en guerre publié dans l'Obs à l'automne dernier, fruit d'un voyage en autostop de la Crimée à Vladivostok réalisé durant l'été. Et Serge Astom qui lance en avril un nouveau magazine trimestriel intitulé Invendable qui rassemblera tous les à côté de pigistes. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.